30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, un peu de sport en ce début de soirée sur Divergence. La chronique de la Babale Carrée va s'intéresser à deux cas pour le moins surprenants d'entraîneurs dans la jungle du football professionnel. Nous parlerons d'un entraîneur qui a parfaitement rempli sa fonction et qui vient de se faire remercier, et d'une révolution dans la mentalité avec l'arrivée la saison prochaine d'une entraîneuse, si j'ose dire, sur le banc d'un club de Ligue 2. Pas d'invités pendant les vacances scolaires pascales, ils sont trop occupés avec des stages, ou alors ils sont en repos, ou alors ils cherchent la poule aux œufs d'or. Alors 30 minutes chrono va ouvrir le dossier du fair play financier. Fair play vraiment ? Comment cela fonctionne ? Et qu'en pensent certains acteurs de ce vaudeville européen où les portes n'ont pas fini de claquer ? Enfin, pour conclure, on fera un rapide survol de quelques résultats, des échéances, des informations sur nos surdoués de notre agglomération. Et cette semaine, cela chauffe pas mal. Chronique de la Babale Carrée. Alors au début du mois de décembre 2013, cette chronique avait abordé le sujet de l'entraîneur viré. Ainsi, ça a commencé comme cela. Comme souvent par un communiqué entre gens de bonne compagnie, cela se termine parfois devant les tribunaux, mais toujours en cas de mauvais résultat d'une équipe dans les sports professionnels, il existe un fusible parfait, c'est l'entraîneur. Jean Fernandez y fut cité en exemple pour avoir fait un tout petit tour et puis s'en va au Montpellier Hérault Football Club. Mais aujourd'hui, nous allons explorer le cas d'un entraîneur qui a réussi son contrat. Le résultat étant le même, il vient d'être remercié. Ce n'est pas le premier à être congédié alors que les résultats de son équipe sont très satisfaisants. On peut penser il y a peu à Antoine Comboiré, viré du Qatar Football Club de Paris Saint-Germain alors qu'il était premier du championnat. Pour Claudio Ranieri, la pilule doit être plus difficile à avaler. Le football club de Monaschi a décidé de se séparer de ce monsieur de 62 ans, pas vraiment un jeune entraîneur, sans aura, comme il le fut reproché à Comboiré, qui, entre parenthèses, fut remplacé par Ancelotti, depuis parti au Real, et remplacé par un jeune entraîneur, Laurent Blanc, sorte de retour à la case départ au PSG. On a du mal à suivre. Mais revenons à Monaco. Depuis l'avènement des roubles qui coulent à flot, les dirigeants étaient allés chercher une pointure internationale pour l'intégrer au projet de grandeur du club. Claudio Ranieri a tout bien fait dès son arrivée en Ligue 2. Il est champion de France et remonte tout de suite avec une équipe de jeunes joueurs de talent. La deuxième année, première parmi l'élite, il qualifie le club directement pour la Champions League en terminant deuxième du championnat en ayant rivalisé longtemps avec le PSG. Son charisme a permis de convaincre aussi des joueurs de dimensions internationales de rejoindre le projet, Falcao étant la star parmi une pléiade de grands joueurs. Il a réussi un subtil mélange entre l'équipe du titre en Ligue 2 et les nouveaux. Seule ombre au tableau, et encore. Bah, il y a eu la blessure de Falcao dans un match de coupe contre une équipe de quatrième niveau. Et puis, il y a l'élimination en demi-finale de la Coupe de France contre le futur vainqueur Guingamp, au Roudourou, où il n'est jamais facile de gagner. Dehors donc, en attendant son successeur, qui pourrait être Zidane, paraît-il. Le football professionnel a bien la tête carrée. Parlons maintenant de la révolution concernant le poste avec l'arrivée officiellement confirmée d'Elena Costa à Clermont Foot pour s'asseoir sur le banc. Dans ce milieu célèbre, à tort ou à raison, pour son machisme, notre jeune Portugaise de 36 ans fait figure d'ovni. Elle n'est pas une novice dans le milieu, mais son intronisation fin juin dans la ville du rugby promet de faire beaucoup de bruit. On la surnomme Mourinha. Pour avoir fait un séjour auprès de Mourinho à Chelsea quand celui-ci dirigeait les Blues entre 2004 et 2007. Pour une femme, se hisser sur un banc d'un club professionnel relève de l'escalade à main nue de la face nord de l'Everest. Mais Elena Costa fait tout très bien depuis qu'elle a décidé de devenir entraîneuse. Je plaisante, entraîneur est un mot difficile à féminiser. Elle a une tête bien pleine. Elle vient de Lisbonne, où elle a obtenu, au rang s'il vous plaît de major, son doctorat de sciences du sport et de l'éducation physique. Puis elle a entraîné des filles en étant championne du Portugal et en gagnant des coupes. Puis elle est partie à l'étranger et elle n'a pas eu peur. Elle a été au Qatar et en Iran, ce qui prouve son caractère et son sens de la diplomatie. Sans compter qu'elle parle de nombreuses langues, dont le français. Ces derniers temps, elle était scout dans la célèbre cellule de recrutement du Celtic de Glasgow, club spécialisé dans les bonnes affaires. Ses derniers employeurs vantent son excellent travail et lui souhaitent sincèrement de réussir dans son nouveau job. Voilà, eh bien, bienvenue en Auvergne et bravo à Claude Michi, le président du Clermont Foot, qui affirme ne pas avoir voulu faire un coup médiatique, mais seulement donner une chance à un entraîneur au potentiel énorme. Nous suivrons son parcours avec attention l'année prochaine où Clermont sera l'une des attractions de cette Ligue 2. Ligue 2 que quittent Metz et probablement Caen et Lens. Rien que du beau monde pour un retour attendu en L1. Aujourd'hui, ce sera l'invité. Et comme je vous l'avais annoncé pendant le sommaire, pas d'invité puisque c'est les vacances de Pâques et on a du mal à trouver les gens qui sont partis chercher des œufs. Alors, mais on va s'occuper d'un dossier dans lequel nous allons plonger. C'est celui du fair play financier. D'abord, c'est quoi ce machin que l'UEFA agite devant la tête des propriétaires trop riches, paraît-il, du football européen? Mais avant d'en parler, je vais vous citer Jean-Louis Triaud, le président des Girondins de Bordeaux, qui a bien résumé, je trouve, le sujet et qui a dit « Le président bordelais a estimé hier, donc c'est un journal qui date de 2-3 jours, donc cette semaine on peut dire, que le système du fair play financier, s'il partait d'une bonne idée, était contre-productif. Il risque de figer les situations au détriment des clubs qui veulent grossir. Il faudrait aussi, dit-il, tenir compte de la dette de certains clubs qui est colossale. » Alors, cette petite introduction étant faite, pourquoi on en est arrivé là, au fait, ce fair play financier? Le recours à l'endettement de la part des clubs de football professionnel européens est loin d'être un nouveau phénomène. Il a toujours plus ou moins existé. Par contre, en revanche, l'ampleur qu'il a prise depuis le début des années 90 est plutôt très inquiétante. À la fin de la saison 2009-2010, ainsi, l'endettement des clubs professionnels de première division en Europe, vous mettez tous les Européens, était de 8,4 milliards d'euros, dont 5,5 milliards d'emprunts bancaires. Alors évidemment, c'est énorme. Par ailleurs, le fait que la régulation financière dépende des instances nationales, alors que les compétitions européennes phares, c'est-à-dire la Ligue des Champions surtout, est-elle disputée au niveau européen, pose un certain nombre de questions relatives à l'équité sportive. En effet, en France, nous, on a une commission qui surveille nos clubs, mais quid en Grande-Bretagne, en Espagne, en Italie, et j'en passe. En Allemagne, là, comme d'habitude, c'est les bons élèves, pas de problème. Les clubs sont pleins de pognon et ils sont tous dans le vert. Alors, c'est vrai, il est établi donc que les résultats sportifs sont quand même plus ou moins corrélés aux dépenses salariales, sur le long terme du moins. C'est-à-dire que pour gagner une grande compétition européenne, il faut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. C'est notamment pour mettre fin à cet état que Michel Platini, le président de l'UEFA, appelle la victoire, ce qu'il appelle la victoire à crédit. Alors, que l'UEFA établit des nouvelles règles d'un fair play financier. Vous comprenez, en gros, c'est très bonne idée, en effet. On dit, après tout, pourquoi ça serait, les gens, il suffirait qu'ils mettent dans un trou sans fin de l'argent et ils pourraient gagner toutes les compétitions puisqu'ils pourraient acheter les meilleurs joueurs. Donc, on va essayer de réguler ça. Alors, bonne idée au départ. On va voir quelques règles et principes, mais attention, ce n'est pas encore appliqué. Donc, il va falloir voir comment ça va s'appliquer. Hein. Alors, à partir de la saison 2013-2014, l'accès aux compétitions européennes, Ligue des Champions et Ligue d'Europa, va être conditionné à de nouvelles règles. Alors, en fait, c'est surtout pour l'année prochaine, 2014-2015, peu importe. Les recettes des clubs ne devront pas dépasser les dépenses. Ah, ça, c'est un bon budget. Un budget de père de famille, hein, vous savez, vous mettez colonne recettes, dépenses, il faut que ça s'équilibre à peu près. Bon, on tolère à l'UEFA, allez, un petit trou de 5 millions d'euros sur les deux saisons précédentes. Et pour la saison 2015-2016, on tiendra compte des trois saisons précédentes. Cette tolérance va être portée à 45 millions d'euros si les actionnaires des grands clubs couvrent l'excès des dépenses. Mais ils ne peuvent pas dépasser 30 millions d'euros. Alors, c'est un peu complexe, mais vous avez compris. En gros, vous avez un actionnaire, il aura le droit de réinjecter de l'argent dans son club si ça lui fait plaisir. Après tout, c'est son argent. Mais il ne pourra plus, comme c'était le cas, en mettre autant qu'il en veut. Avant, il y avait quelqu'un qui est un grand milliardaire, on verra quelques cas tout à l'heure, qui disait, tiens, je mets 200 millions là, hop, sur la table et on va acheter Falcao, par exemple. Hein. Donc, ça ne sera plus possible. Ils vont être surveillés par l'UEFA. Bon, très bien, surveillés par l'UEFA, pourquoi pas, hein, il y a un fair play financier. Alors, mais comment ça va se passer, les sanctions? Alors, pour le moment, les sanctions, c'est assez large. Alors, les sanctions, ce qui semble être retenu sur les dotations financières en Ligue des Champions et Ligue Europa, c'est-à-dire l'UEFA rend de l'argent, comme vous savez, au club. Si vous participez à la Ligue des Champions, j'en ai parlé récemment dans une autre chronique, vous gagnez beaucoup d'argent. Eh bien, l'UEFA, au lieu de redeverser cet argent au club qui sera sanctionné, retiendra cet argent. Bon, très bien, là, c'est facile, pas compliqué. Il ne redonne pas le pognon. Il y aura aussi des déductions de points en phase de poule. Ça, c'est plus grave, puisqu'on attaque sur le sportif. Donc, un club qui sera sanctionné pourra partir dans la phase de poule de Ligue des Champions avec moins 3, par exemple. Bon. Il sera aussi interdit pour certains clubs d'aligner de nouveaux joueurs. C'est-à-dire des joueurs qui auraient été achetés pendant les mercato alors que le fair play financier n'est plus respecté. Et le pire, l'UEFA pourra prononcer l'exclusion de ces compétitions auprès de clubs qui seraient vraiment récidivistes. Alors vous voyez, il y a un arsenal quand même terrible sur les possibilités de l'UEFA à condamner les clubs, mais vous croyez qu'ils vont le faire ? Moi, je reste très sceptique. Et puis, il y a un point qui n'est pas abordé, c'est le scandale de la dette. C'est-à-dire qu'il y a des clubs, depuis des années, qui se sont endettés de façon faramineuse. Mais eux, ils ne vont pas être sanctionnés sur leur dette. Hein. Ils sont sanctionnés, vous avez compris, sur les 2-3 années précédentes, avec le recette équilibré à 45 millions d'euros près. Mais sur la dette, quid de la dette ? Alors, ce sont bien les déficits et pas la dette qui seront ciblés par la FPF, le fair play financier. Les dettes existantes ne disparaîtront pas du football européen. Tout au plus, le fair play financier pourra limiter l'accroissement de la dette. Mais quid de la dette ? Alors, je vais vous donner quelques exemples. Et qu'est-ce que ça aurait donné si ce fair play financier avait été appliqué depuis longtemps ? Eh bien, j'ai un tableau là qui a été communiqué par une société qui fait des audits hein, sur les grands clubs de football. Eh bien, on est dans les années, alors c'est assez récent, mais je ne peux pas remonter trop loin parce que c'est le seul tableau qui existe. C'est la saison 2010-2011 terminant ce tableau. Alors, par exemple, vous n'entendrez pas parler du Paris Saint-Germain parce que le Paris Saint-Germain, ce n'était pas encore le Qatar Football Club à l'époque. Il est intéressant de noter que 9 des 20 premiers clubs européens de l'époque, donc de 2010-2011, ont dépassé largement le seuil des 45 millions de pertes agréées par l'UEFA. Les trois plus grands déséquilibres entre recettes et dépenses ont été l'œuvre de trois clubs, comme par hasard, détenus par des grandes fortunes. Alors, dans le détail, hein, Manchester City, numéro un mondial. Vous savez combien qu'ils ont de déséquilibres financiers en 2010-2011 ? 366 millions d'euros de déficit. Alors là, on est très loin des 45 millions. Mais Manchester City est détenu par le Tchèque Mansour Ben Zayed Al Nahyan d'Abu Dhabi. Le Tchèque d'Abu Dhabi. Donc lui, il s'en fout. Lui, le Tchèque d'Abu Dhabi, il fait un chèque, si je me permets cette expression. Hein, il prend son carnet de chèque, il dit combien là ? Il y a 380. Bon, bah, allez, hop. Et puis, ils sont plus malins que ça. Ils utilisent leur pays pour couvrir fictivement les recettes. C'est-à-dire que, notamment à Manchester City, le cheikh d'Abu Dhabi a trouvé un moyen. Il a demandé à la compagnie nationale d'aviation d'Abu Dhabi de financer, de naming, vous savez, le naming du stade, pour la modique somme de 40 millions d'euros par an pour 10 ou 15 ans. Donc, vous voyez, c'est très facile de faire. Alors, au Paris Saint-Germain, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'était aussi le cas avec ce contrat en or massif venu du tourisme du Qatar. Le touriste de Qatar offre par an 200 millions d'euros au PSG. Comme ça, parce que le PSG représente une possibilité de faire venir des touristes au Qatar. L'UEFA a trouvé ça un peu bizarre, on en reparlera rapidement. Donc les grands clubs endettés, c'était donc, on a dit Manchester City, Chelsea. Chelsea, c'est quoi Chelsea ? Et c'est Chelsea, comme on dit en Angleterre. Chelsea, c'est le propriétaire, ben, c'est le milliardaire russe Roman Abramovitch. Et lui, alors là, Chelsea, on en est dans des sommes faramineuses aussi, 161 millions d'euros de déficit. C'est pas très grave, hein. Il a de l'argent, il a un beau yacht. D'ailleurs, si vous savez, Abramovich, c'est le propriétaire du plus grand yacht au monde, s'il vous plaît, devant la reine d'Angleterre. Mais oui, je vous le dis, c'est pour ça qu'il est à Chelsea. D'ailleurs. Bon, d'autres clubs aussi sont très très endettés, comme le FC Barcelone. On en parle peu du FC Barcelone, vous savez, hein, mais ils ont sacré problème financier de dette. Et ils sont un peu dans le collimateur de l'UEFA, comme le PSG ou d'autres. Alors, il y a des clubs qui sont aussi beaucoup endettés, c'est les clubs italiens comme l'Inter de Milan. Mais il est aux mains du magnat du pétrole Massimo Moratti. Alors donc, tous ces gens-là, quelque part, je crois que le fair play financier, ça doit les faire un peu rigoler. Hein. Mais, si les règles sont vraiment appliquées, il y aura problème. Il y aura vraiment des exclusions, des pertes de points, etc. Et va ressortir peut-être le serpent de mer. Le serpent de mer, c'est quoi ? Ben, c'est les grands clubs européens qui disent « L'UEFA, vous commencez à nous emmerder sérieusement avec vos règles de plus en plus difficiles à respecter. » Qui est-ce qui rapporte le pognon à l'UEFA ? C'est nous. C'est nous, par le biais des télévisions. Là aussi, il y a, dans le fair play financier, on dit que les droits télévision ne peuvent pas dépasser une certaine somme pour certains clubs. Alors on pense bien entendu à beIN Sport. beIN Sport, c'est le Qatar. Et le Qatar, c'est Paris Saint-Germain. Alors qui va empêcher beIN Sport de faire un contrat en or massif pour les retransmissions des matchs du PSG ? Sur quelle base juridique on va se placer ? Alors, comme quoi ça serait pas normal, ça serait trop déséquilibré, mais comment le prouver tout ça ? Il y a une bataille d'avocats à venir, je vous dis pas, entre l'UEFA et les grands clubs. Alors le serpent de mer, bah, ça serait les grands clubs qui diraient bah, « l'UEFA, puisque vous nous cassez les pieds, on va faire un petit championnat d'Europe fermé, comme la NBA ». Hein, ça serait pas mal ça, hein. il n'y aurait plus personne, les plus petits, on n'en parlerait plus. Alors, quid des petits clubs, parce que vous savez ce qui est bizarre et ce qu'on ne sait peu, et bien c'est que les clubs très endettés, ce sont aussi des petits clubs. Alors, s'il est indéniable que les compétitions européennes deviendront plus saines, d'un point de vue financier, si on finance les grands, ça ne va pas changer pour les petits. Ce sont ces derniers qui connaissent les difficultés les plus sérieuses. Alors, on a vu, par exemple, une grève de footballeurs en Espagne quand des clubs fermaient, ils mettaient la clé sur la porte. Et selon l'UEFA, en 2012, les championnats européens où le déficit en pourcentage des recettes sont les plus importants sont, je vais les citer avant de vous quitter pour quelques instants, sont l'Ukraine, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, Chypre, la Croatie, la Slovaquie, la Bulgarie, l'Azerbaïdjan, la Bosnie et la Géorgie. Alors on est bien loin des grands championnats, donc l'UEFA peut-être qu'ils nous mènent un peu en bateau, ou alors ils veulent faire encore un peu plus d'argent. Le lancer du CD. Alors, de retour sur ce fair play financier, on n'a pas fini d'en parler, je crois. Alors, les indiscrétions de l'UEFA, il semblerait que le PSG va être en effet assez lourdement sanctionné. Le fameux contrat de 200 millions d'euros annuel du tourisme qatari là, va être ramené à 100 millions réels. Donc là, il y aura 100 millions donc, de pertes supplémentaires. Et la masse salariale du PSG, qui est la plus forte d'Europe d'ailleurs, avec 240 millions d'euros de salaire, et va être encadrée. Voilà ce qu'ils disent. Et puis ainsi de suite. On va voir. Ils n'auront pas le droit de recruter. Ils auront le droit de recruter peut-être qu'à hauteur de 60 millions, quand même. 60 millions d'euros, ce n'est pas si mal. Et ils n'auront pas le droit d'acheter 3 joueurs à 30 millions, par exemple. Vous voyez, ça, il y a question d'encadrement du PSG. Mais on demande à voir et on en reparlera certainement.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Bon, allez, on revient dans l'agglomération montpelliéraine après être parti très loin en Russie, au Qatar, dans les Émirats, là, au Abu Dhabi et compagnie. Eh bien, Montpellier en rugby, ben, c'est la demi-finale quand même. Demi-finale directe, on peut féliciter nos joueurs de rugby. Alors, on leur souhaite d'aller jusqu'au bout. Hein. Cette année, c'est peut-être la bonne. C'est peut-être l'année de Montpellier en rugby, on verra. Au handball, je n'arrête pas dans cette émission de revenir sans arrêt sur nos handballeurs parce que Ils m'impressionnent. Alors, ils nous ont fait plein de bêtises, mais ceux qui ont fait les bêtises, ben, ils ne sont plus au club. Hein. Mais le club de Montpellier, malgré les erreurs de gestion, les 2 points retirés, etc., par la commission de discipline de la Fédération de handball, malgré des jeunes qui sortent de leur centre de formation, eh ben, le Montpellier Handball a encore fait une sorte d'exploit, puisqu'il a battu Paris Saint-Germain, le Qatar Handball Club, 36-28, s'il vous plaît. Et c'était donc à l'aréna, devant une salle archi-clombe. Il y a vraiment de la place pour le handball à Montpellier. Il nous reste 2 journées. Pour le moment, Montpellier est deuxième, malgré les 2 points de retiré. Donc s'il reste à cette place-là, eh bien, c'est Ligue des Champions, avec Dunkerque. Dunkerque, ça y est, bravo Dunkerque, ils sont champions de France. Bravo Dunkerque. Et Montpellier deuxième, ça serait extraordinaire. Et le PSG troisième, l'émir du Qatar, ne va pas être content, c'est moi qui vous le dis. Hein, parce qu'il a mis de l'argent là-dedans aussi. Hein. Bon, on va parler de nos voisins. Voilà, Nîmes. Allez, Nîmes, les crocos, vous n'allez pas descendre en national quand même. Allez, un petit effort, il reste encore quelques journées. Il en reste 2, là aussi. Et maintenez-vous en L2, hein, parce que on vous sait bien, Montpellier, les derbies, c'est chaud. On aimerait bien en retrouver des derbies, Nîmes-Montpellier. Mais au moins, maintenez-vous en L2. Et puis, bienvenue à Luzenac. Luzenac, vous savez ce que c'est? C'est un petit village de 650 habitants. Ça se situe en Ariège. Eh bien, il monte en L2. Vous vous rendez compte? C'est comme si, on va dire, je ne sais pas moi, un petit village de l'Hérault était en Ligue 2. Bon, maintenant, attention, Luzenac, c'est quand même le fief de Fabien Barthès. Et il s'en occupe de cette équipe, mais bravo à lui, hein, parce qu'ils vont monter en L2. Bon, dernière chose, demain, il vous reste encore, si vous avez un peu envie de prendre l'air, d'aller voir la Coupe de France de speed. Alors, c'est quoi? De kite speed. Oh là, c'est compliqué ça. Ça se passe sur l'eau, c'est à Villeneuve-les-Maguelones. Il y a des fous qui vont à une vitesse phénoménale sur l'eau. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est très important. Et puis enfin, un petit dernier résultat de football local, on va dire, hein, la Coupe de l'Hérault. Et bien la Coupe de l'Hérault opposera cette année la Grande Motte à Paulhan-Pesnas. En voir et à la semaine prochaine pour une autre émission 30 minutes chrono avec cette fois-ci, je pense que nous aurons un invité. Au revoir, à bientôt. L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.